Les deux orphelines, quatrième partie, chapitre 13. Après la scène d'horreur dont elle avait été témoin, Henriette demeura comme frappée de torpeur. Louise, qui grâce à sa cécité ignorait tous les détails de ce lugubre drame, interrogeait. « Viens, fuyons cette maison. Viens, Louise !» balbutia Henriette d'une voix saccadée par l'émotion. « Pourquoi trembles-tu ainsi, ma sœur? Est-ce que nous ne sommes pas libres maintenant ?»« Viens, te dis-je, la mort est dans cette maison. »«
Quoi?
Cet homme est donc... »«
Mort, il est mort !»«
Et c'est Pierre qui l'a frappé. »«
Et c'est moi qui suis cause que le frère a tué son frère. »
Elle suivait maintenant Henriette en pleurant. Et elle répétait à voix basse, comme s'adressant à sa conscience.
« C'est pour moi qu'il a exposé sa vie. C'est pour moi qu'il est grièvement blessé, sans doute. C'est pour moi qu'il a tué. Oui, oui, je l'avais bien compris à sa voix, qui vibrait de colère, aux terribles menaces qu'il recevait en face, sans faiblir. J'ai bien compris que c'était le désespoir qui le poussait, et qu'il était prêt à donner sa vie pour sauver la mienne.
« C'est un brave cœur, » dit Henriette. Il a reçu la première blessure sans pousser un cri. J'ai vu son sang rougir la chemise trouée par le coutelas de cet homme, et il n'a pas reculé. Il a présenté sa poitrine au cou de son adversaire pour nous défendre, et il nous a sauvés.
Oh, mon Dieu !
Il semblait résolu à se faire tuer, plutôt que d'assister aux menaces et aux outrages que nous réservait son frère.
Oh, Pierre, Pierre, disait Louise en pleurant.
Nous devons le remercier et le bénir, Louise. Car il semblait avoir fait pour nous sauver le sacrifice de sa vie. Il a frappé au hasard, et c'est le hasard qui a voulu que la blessure fût mortelle. Et c'est Dieu sans doute qui a conduit son bras et dirigé sa main.
Ne pleure plus, ne te lamente plus. Et s'il me fallait prêter serment devant un tribunal, appelé à le juger...
Pierre ? Pierre jugé ? Condamné ?
Je lèverai la main devant le Christ, et je jurerai sur mon âme et sur ma conscience que celui qui a frappé est innocent, qu'il n'a fait que défendre sa vie d'autant plus menacée qu'il était déjà blessé, affaibli, que son sang coulait et que dans un mouvement désespéré, il a frappé sans voir. Il a tué sans le vouloir.
Ce jugement porté sur la conduite de Pierre dans cette tragique scène amena un peu de calme dans le cœur de Louise. Elle serra la main de son amie comme pour la remercier d'avoir parlé ainsi du seul ami qu'elle eut rencontrée depuis ses infortunes sans nom. Et mentalement, pendant qu'elle suivait Henriette à pas précipités, la chère enfant reportait sa pensée vers le rémouleur. Elle se demandait ce qu'il pouvait faire en ce moment, entre ce cadavre et la marâtre qui devait le maudire. Elle entendait, comme dans un écho lointain, ces mots que Pierre avait prononcés. « J'attends la justice. » Et elle se représentait le brave garçon, aux mains des agents et des soldats, qui l'entraînerait, suivi par la foule vociférant des malédictions contre l'assassin, le fratricide. Elle se le figurait tremblant, pâle, la conscience bourrelée de remords et courbant le front comme un coupable. Tout à coup, Henriette la tira de ses réflexions douloureuses. Elles étaient arrivées au bout de la rue de l'Oursine. Il fallait maintenant s'informer de la direction à prendre. Et comme Henriette s'arrêtait dans l'intention de se renseigner,
« Où allons-nous ? » lui demanda l'aveugle. « Est-ce que tu as retrouvé ce monsieur Martin, à qui nous étions adressés et qui devait nous attendre le jour de notre arrivée à Paris ? Est-ce chez lui, enfin, que tu vas me conduire ?»«
Non, Louise, nous n'allons pas chez ce monsieur Martin. Plus tard, je t'expliquerai pourquoi je n'ai pu découvrir sa demeure. Je te dirai tout ce que j'ai souffert, moi aussi, pendant que tu tombais aux mains de ceux qui ont si cruellement abusé de ta situation. Tu sauras tout ce que j'ai fait pour te retrouver. » Tout ce que d'autres ont tenté dans le même but. Pour le moment, laisse-moi seulement te dire que nous allons trouver l'hospitalité chez un homme de bien qui s'est intéressé à nous.
À nous ? Dit Louise étonnée.
Oui, ma Louise, à nous, car il te connaît. Il t'a parlé.
Hélas, je ne me souviens pas, ou du moins...
Oui, je me rappelle qu'une personne m'a adressé des paroles bienveillantes. En me faisant l'aumône, un jour que je grelottais sur les marches d'une église. Mais c'était une dame, et il me semble entendre encore sa voix émue, lorsque me glissant une pièce de monnaie dans la main,
Elle me dit « Tenez, mon enfant, vous donnerez ceci à votre mère, et vous prierez pour moi. »
« Eh bien, tu as oublié une autre personne qui s'est également intéressée à toi, ma sœur. Mais il m'a bien dit où et dans quelles circonstances il t'avait rencontré. C'est un grand médecin. »
« Ah oui, oui, je m'en souviens. »
Ce monsieur avait tout d'abord repoussé la mendiante qui lui demandait la charité. Mais lorsqu'il eut appris que j'étais aveugle, il s'est aussitôt approché de moi. Il m'a questionnée pour savoir comment je l'étais devenue et depuis combien de temps. Puis il a parlé bas à la mendiante. J'ai bien essayé d'entendre ce qu'il disait, mais inutilement. Et depuis, j'ai supposé qu'il avait reconnu, hélas, qu'il n'y avait pas de guérison possible pour moi.
Tu te trompais, ma Louise. Il t'attend avec impatience, et c'est chez lui que nous allons nous rendre tout de suite.
Son nom, quel est son nom? Et où demeure-t-il?
Il m'a donné sa carte. Il se nomme le docteur Hébert et demeure rue Saint-Louis-du-Temple.
Alors, marchons bien vite.
Il faut que je demande quel chemin il faut suivre. En voyant ces deux jeunes filles, dont l'une était aveugle et qui paraissait indécise sur la direction à prendre, quelques passants s'étaient arrêtés. Henriette s'adressa à l'un d'eux.
« La rue Saint-Louis ?» répondit le passant.
« C'est encore assez loin. Il faut suivre la rue Mouffetard, jusqu'à la place, que vous trouverez au bout. C'est tout droit. Puis, une fois sur le quai, vous traverserez la Seine, sur le pont Notre-Dame, et vous demanderez une fois arrivé là. »
Les deux orphelines reprirent leur marche, pressant le pas, car Louise avait hâte, disait-elle, d'arriver chez le docteur, tourmentée par l'idée de raconter à celui qui s'annonçait comme un protecteur les terribles scènes qui s'étaient déroulées chez la Frochard et leur dénouement plus terrible encore. Elle espérait intéresser le médecin au sort du pauvre rémouleur dont la pensée venait sans cesse hanter son esprit. Aussi, lorsqu'Henriette lui eut annoncé, après cette longue course à travers plusieurs quartiers de Paris, qu'elle se trouvait devant la porte de l'hôtel habité par le docteur Hébert, Louise éprouva-t-elle une sensation de soulagement. Le médecin les reçut aussitôt dans son cabinet de consultation et la conversation s'engagea entre ces trois personnes, Henriette s'étant chargée de raconter l'horrible drame auquel elle venait d'assister. Lorsqu'elle eut achevé son récit, ce fut le tour de Louise de plaider la cause de Pierre. Elle le fit avec tout ce qu'elle avait de reconnaissance dans le cœur pour ce brave garçon. Elle parla avec des larmes continues et un débordement d'émotions qui attendrirent le docteur. « Je tenterai de le sauver, » dit le docteur, « et pour cela, je ne veux pas perdre un instant. » Il avait commandé son carrosse. « Je vous garde, mes enfants, » dit-il aux deux orphelines. « Vous demeurerez ici jusqu'à ce que je vous ai procuré un asile à toutes deux. Mais le plus pressé pour moi est de me rendre rue de l'Oursine. »
« Et vous le sauverez, n'est-ce pas ?» implora l'aveugle en joignant les mains.
Le docteur promit et se retira précipitamment. Nous laisserons pour un moment Henriette et son amie dans la chambre que le docteur Hébert avait mise à leur disposition pour suivre le célèbre praticien dans le taudis de la Frochard. La nouvelle du meurtre commençait à transpirer au dehors. Les enfants, dont l'aîné avait, on s'en souvient, indiqué à Henriette la masure habitée par la mendiante, en voyant la jeune fille revenir en compagnie de l'aveugle qu'il connaissait bien, avaient naturellement eu la curiosité de pousser jusqu'à la porte de la Picoque. Et comme cette porte était restée entrebâillée, ils avaient vu la mise en scène du drame sanglant telle qu'elle était au moment où Henriette et sa sœur avaient pris la fuite. La Frochard, agenouillée, penchée sur le corps de son fils, cherchait à le ranimer, lui parlait, le suppliait d'ouvrir les yeux et de lui répondre. Le cadavre commençait à prendre de la rigidité, entouré d'une large flaque de sang. Pierre n'avait pas bougé. Il semblait, comme il l'avait dit, attendre les gens de justice lorsque ceux-ci feraient apparition à la porte pendant la ronde du soir. Le silence de ce taudis lugubre n'était interrompu que par les sourds gémissements de la mendiante, alternant avec les cris de désespoir qu'elle poussait. Épouvantés, les petits mendiants s'étaient enfuis pour aller colporter la sinistre nouvelle dans le quartier. C'était l'heure où chacun rentrait au logis, et peu curieux d'un spectacle qu'on avait vu bien des fois dans ce quartier de malfaiteurs, les cyniques habitants de l'endroit avaient, pour la plupart, haussé les épaules et continué leur marche. D'autres grommelaient que ça allait encore attirer la police dans le quartier. Quelques rares individus,
de ceux qui avaient l'habitude de causer avec la Frochard, se risquèrent jusqu'à la maison du crime. Le guet, prévenu, arrivait juste comme le carrosse du docteur Hébert s'arrêtait devant la masure. Deux exemples se présentaient en même temps. On allait procéder aux constatations judiciaires. Le docteur entra le premier et courut tout d'abord au corps étendu. Écartant brusquement la mendiante qui commençait à vociférer des accusations, il lui imposa silence du regard. Puis il se mit à examiner attentivement le cadavre en présence du groupe formé par les exemples et les soldats du guet. Au bout d'un court espace de temps, il déclara que le malheureux avait dû se suicider alors qu'il était en état d'ivresse et dans une surexcitation cérébrale extrême. La Frochard avait écouté, roulant des regards furibonds sur Pierre. Le médecin saisit l'expression de ce regard de chouette et, s'adressant à la mendiante, il la regarda bien en face et, les yeux dans les yeux, il lui dit d'une voix pleine d'énergie et d'autorité. « Écoutez-moi et comprenez-moi bien, femme Frochard. De vos deux fils, il ne vous en reste plus qu'un seul. L'autre s'est tué. Entendez-vous? Il s'est tué. »
« Il s'est tué, » répéta la Frochard d'un air égaré.
« Je vais faire ma déclaration dans ce sens. »«
Oui, oui, » balbutia la mégère, en se levant comme frappée d'imbécilité. « Il s'est tué. Mon Jacques s'est tué. »
Sur l'ordre des exemples, les soldats avaient soulevé le corps et le portèrent sur le grabat. Pendant ce temps, la Frochard demeurait immobile, regardant Pierre qui parlait tout bas avec le docteur. Celui-ci faisait plus qu'il n'avait promis à Louise, car non content d'avoir sauvé le meurtrier, il voulait revoir Pierre chez lui, et c'est pourquoi il lui parlait à voix basse en ce moment. « Je vous attendrai dans quelques jours, lui dit-il, dès que vous en aurez fini avec les obsèques de votre frère. » Le rémouleur avait remercié, sans comprendre pourquoi le docteur, qu'il avait vu 100 fois, s'intéressait maintenant à lui. Monsieur Hébert voulut lui laisser un secours d'argent, mais Pierre refusa, disant « Je n'ai besoin de rien, monsieur. Dès demain, je reprendrai mon travail. » La Frochard avait vu cet argent que le médecin venait de tirer de sa poche. Elle allait s'élancer, la main tendue, les chines courbées et hideuse de bassesse et de cafardise, elle allait commencer à débiter son boniment habituel. Le naturel chez l'odieuse créature reprenait le dessus. Mais ses yeux rencontrèrent le cadavre sanglant de son fils bien-aimé, et elle retomba agenouillée auprès de lui, en pleurant et en hurlant. Le médecin lui jeta la poignée d'argent comme on jette un os à un chien. Et il sortit en faisant un signe d'intelligence à Pierre. Il n'y avait que peu de formalités à accomplir, et les exemples se chargèrent de faire obtenir aux rémouleurs, qu'ils emmenèrent avec eux, l'autorisation de faire enterrer le corps du suicidé, auquel l'Église refuserait, disait-il, les prières. Demeurée seule en face du corps inanimé de celui qui avait été son chérubin, la Frochard pleura longtemps, bien longtemps. Puis, du revers de sa main, cette mère désespérée sécha ses larmes et se mit à ramasser l'argent que le docteur lui avait jeté avec un geste de dégoût. Elle sortit ensuite, se dirigeant vers le bouge enfumé qui servait de cabaret à la population bizarre de ce quartier. Elle fit ample provision d'eau-de-vie et rentra au logis avec 2 bouteilles pleines qu'elle alla cacher, ainsi qu'elle en avait l'habitude, sous la paillasse de son grabat. Cette fois, pour glisser les bouteilles, elle fut obligée de soulever plus haut la paillasse qui imprima un mouvement de roulis au corps de Jacques. Et un filet de sang coula sur la main de la mégère. Elle regarda ce rouge. « Le sang de mon pauvre chérubin, murmura-t-elle, de mon pauvre chérubin, que bientôt je ne verrai plus jamais. 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 » Et débouchant une des bouteilles, elle la porta vivement à ses lèvres, cherchant dans l'ivresse la consolation au désespoir qu'elle ressentait. Et tout en buvant, l'ignoble créature marmottait des paroles de plus en plus incohérentes, s'adressant tantôt au cadavre, tantôt à Pierre, comme si le rémouleur eût été là pour entendre les imprécations et les menaces qu'elle formulait contre lui. Les libations se poursuivaient, entrecoupées de monologues, tout rempli de violence, de larmes, d'imprécations et de rauques gémissements. Puis arriva la torpeur, et la Frochard buvait toujours, engloutissant le liquide corrosif qui lui incendiait la gorge et consumait lentement les entrailles. Elle but jusqu'à ce que, gorgée, elle s'affaissa,
la tête appuyée sur le cadavre de son fils, en proie à cet engourdissement de l'être qui est la dernière période de l'ivresse abrutissante. Et elle demeura ainsi, les yeux vitreux, la face enluminée, contrastant avec le visage livide du mort, la bouche suintant l'alcool, les joues pendantes, repoussantes, hideuses, immondes. Plus tard, les sanglots étant taris, arriva le rire strident, irrésistible, que les folles et les ivrognes subissent et que les nerfs irrités alimentent jusqu'à complet épuisement. La Frochard eut un de ces accès de gaieté sauvage en présence de ce cadavre, et elle bégaya de sa voix éraillée cette chanson que redisait souvent Jacques Frochard. « Au cabaret le samedi, allons attendre le dimanche, nous y reviendrons. » Tout à coup, la voix lui manqua. Sa bouche demeura ouverte, ses yeux fixes, et elle tomba tout d'une pièce sur le cadavre. C'est là que Pierre la trouva en rentrant au taudis, le soir, après les formalités accomplies. Le pauvre garçon referma doucement la porte derrière lui, avec les précautions que l'on prend pour ne pas troubler le silence qui règne dans les chambres mortuaires. Il demeura au seuil de cette demeure, dont l'âcre odeur de sang saturait l'air, et immobile, il contempla le lugubre tableau qui s'offrait à lui. Sa mère, qu'il voyait étendue sur le corps de Jacques, lui semblait en proie à ce grand désespoir que ressentent les mères qui perdent leurs enfants. Pierre s'avança lentement, le front courbé, et s'agenouilla silencieux auprès du grabat. Il s'abîma dans une méditation douloureuse, invoquant par la pensée la toute-puissance divine pour apaiser les remords qui l'accablaient. Le malheureux s'accusait devant sa conscience du meurtre dont l'avait innocenté la déclaration du docteur. Et maintenant qu'il avait échappé à la justice, il se condamnait lui-même avec sévérité. Désormais, son rôle en ce monde devait être celui d'un fils repentant du désespoir qu'il avait causé à sa mère, à cette femme folle de douleur qui, en ce moment, croyait-il, ne pouvait s'arracher du corps de son fils immobile, glacé, raidi par la mort. À cette mère qui cherchait dans l'égarement de son esprit à se persuader que son enfant n'avait pas cessé de vivre et qu'elle allait le ranimer à force de l'appeler et de l'embrasser. Il ne faillirait pas au devoir qui lui incombait maintenant de soutenir la vieillesse de celle qu'il avait plongée dans le désespoir. Il oubliait qu'elle n'avait été pour lui qu'une marâtre qui supportait sa présence dans la maison parce qu'il y apportait le fruit de ses labeurs. Il se dévouerait à cette marâtre, il travaillerait pour lui rendre la vie moins amère. Elle n'irait plus tendre la main. Il pourvoirait à tout, dût-il subir les privations les plus grandes. Il le fallait pour qu'il pût se sentir moins criminel, pauvre être qui n'avait fait que se défendre et que la Providence avait protégé et secouru. Et pendant qu'il pensait ainsi, ses lèvres tremblantes murmuraient « Pardonne-moi, mère, pardonne-moi, Jacques, si de là-haut tu m'entends. » Alors, il écoutait, dans ce lugubre silence, la respiration haletante et rauque qui sortait de la gorge contractée de la mendiante. Il s'attendait à voir sa mère lever la tête et le maudire, l'appeler fratricide, et s'accrochant des deux mains à son visage, lui crier « Assassin, assassin !» Et il était résigné à tout. Il ne récriminerait pas, il ne se plaindrait pas. Il supporterait les invectives, il courberait le dos sous les coups. Il attendrait, sans se plaindre, que la mère, affolée de douleur, eût épuisé sa colère et ses forces contre sa chétive personne. Docilement, il courbait déjà la tête pour le châtiment. Soudain, la respiration haletante s'interrompit brusquement et un murmure s'exhala des lèvres convulsées de la Frochard. Un murmure rythmé, comme un chant. Une prière, pensa le rémouleur, remué jusqu'au fond de l'âme. Et il écouta. Mais la voix éraillée de la mendiante força le ton. Elle chantait. Pour mettre du pain sur la planche, c'est bien assez qu'on se démanche, à travailler le vendredi. Un cri d'horreur sortit de la poitrine de Pierre. Folle! Folle! S'exclama-t-il en portant les mains à sa tête et la serrant à la broyer. Folle! Répéta-t-il en se relevant, tout frissonnant de désespoir. Et c'est moi, moi! Alors, ce malheureux prit sa mère dans ses bras. Il la souleva et la tint embrassée contre sa poitrine, les lèvres déjà entr'ouvertes pour supplier cette pauvre femme de lui parler, de revenir à elle, de retrouver la raison. Mais un mot sortit de sa bouche. « Ivre ! » s'écria-t-il. La mégère tenait encore la bouteille d'eau-de-vie dans sa main crispée. Pierre voulut s'en emparer, mais sa mère arrêta son regard fixe et vitreux sur lui.
« Qu'est-ce que tu veux, toi, Lavourton ?» lui dit-elle en bredouillant.
« Mère, mère !» fit le rémouleur en essayant de saisir de nouveau la bouteille. La Frochard le repoussa en criant.
« Tu veux donc t'ivrogner, monsieur Cupidon ?»
Et elle porta d'une main agitée par la fièvre le goulot à ses lèvres. Elle buvait à longs traits, s'arrêtant pour reprendre haleine, puis elle recommençait. Enfin, la bouteille vide, tombant de ses mains, se brisa sur le sol. Pendant quelques secondes, la misérable créature tenta des efforts pour marcher. Elle arriva en titubant jusqu'à l'endroit où elle avait caché la seconde bouteille, souleva la paillasse, mais ce fut son dernier effort. Elle roula au pied du grabat en poussant des cris de folle, des hurlements d'hyène en fureur. Puis elle se tut, vaincue par l'ivresse, immobile et comme paralysée. Pierre avait du regard suivi toute cette scène. Lorsqu'il n'eut plus devant lui que ses deux corps inertes, le malheureux s'imposa le devoir de rester là, comme à un poste que sa piété lui commandait de ne pas abandonner. La nuit arrivait noire dans cette chambre. Il alluma le bout de chandelle fiché dans le goulot de la bouteille et vint le placer en guise de cierge au chevet du mort. Puis il alla s'asseoir sur l'escabeau, les coudes aux genoux et le front dans les mains. Et la lugubre veillée commença au milieu d'un profond silence, interrompu seulement par la sonnerie des cloches lointaines qui envoyaient l'heure à travers l'espace. Il les compta toutes ces heures si lentes à s'écouler pendant cette interminable nuit peuplée pour lui de souvenirs torturants. Il vit, comme dans une hallucination, défiler devant lui tous les événements qui s'étaient accomplis depuis le soir où la Frochard avait amené l'aveugle dans ce bouge. Il vit Louise toute tremblante lorsque la mendiante lui arrachait ses hardes pour la revêtir de misérables haillons. Il la vit encore lorsque, enfermée dans le grenier, elle se lamentait, priant et succombant au désespoir. Il se vit lui-même montant les marches du petit escalier pour aller écouter les sanglots de l'aveugle, pour lui parler, la conjurer de prendre patience et de vivre pour revoir sa sœur. Puis il se retrouva, par une rapide succession de faits, transporté devant l'église Saint-Sulpice et couvrant de son habit les épaules de Louise, frissonnante et bleuie par le froid. Puis l'arrivée de Jacques, qui lui défendait de suivre l'aveugle, puis le terrible dénouement. Et après chaque étape parcourue de ce vertigineux voyage dans un passé douloureux, le malheureux Pierre constatait que son amour insensé grandissait chaque jour et qu'il se sentirait mourir s'il lui était réservé de ne plus voir sa chère aveugle. Et ce moment était arrivé. Louise n'était plus là-haut dans ce grenier. Il ne la reverrait plus, il ne sentirait plus la main de Louise serrer sa main à lui pour le remercier d'être son ami dévoué, son protecteur. C'était fini. Désormais, il serait seul dans le monde, comme autrefois, avant qu'il n'eût rencontré l'ange qui avait éclairé sa vie d'une lueur ignorée, qui lui avait fait reprendre courage après toutes les amertumes subies, tous les désespoirs qui lui apportaient des idées de suicide. C'en était fait. L'aveugle avait emporté avec elle tout ce qu'il avait de bon en lui, et il demeurait le meurtrier, voué à la vie désespérée des parias, le fils du supplicié, l'enfant de la mendiante. Il retombait plus profondément que jamais dans la fange où il n'avait pas voulu se vautrer comme les siens. Le jour naissant le trouva accroupi, brisé, le regard brûlé par la fièvre et les larmes. Les premières clartés du matin, filtrant par la fenêtre, restée ouverte, se projetaient sur le visage livide de Jacques et lui donnaient des tons blafards dans un encadrement de sang coagulé. Pierre se leva d'un bond pour s'enfuir. Mais surmontant cette terreur comme une expiation, il s'obligea à avoir du courage pour supporter ce terrifiant spectacle. Il s'avança tout près du grabat mortuaire et s'agenouilla devant le corps dont la main glacée se trouva en contact avec son front. Et il ne broncha pas, lui, le timide, le peureux, l'être sans force et sans volonté. Il laissa sa chair vivante s'appuyer sur cette chair morte. Il lui semblait que le trépassé lui pardonnait en étendant sa main rigide sur lui. Pierre pleurait et priait encore lorsque les hommes vinrent pour l'ensevelissement. En ce moment même, la Frochard se réveillait de son sommeil d'ivrogne. Elle jeta un regard vague autour d'elle. Puis, machinalement, tout à fait inconsciente, elle alla s'agenouiller à côté de Pierre, pendant que les ensevelisseurs procédaient à leur sinistre besogne. À partir de ce moment, il sembla que la Frochard n'eut plus le souvenir de ce qui était arrivé, et qu'elle ne ressentit plus cette douleur aiguë dont elle avait donné le spectacle au moment où le chérubin tombait frappé à mort. On eût dit maintenant d'une brute atteinte dans son intelligence, non pas par la folie extravagante avec des intermittences de fureur, mais bien par l'imbécilité qui chaque jour fait de nouveaux progrès. Elle était demeurée silencieuse, les yeux secs, pendant que Pierre laissait voir sur ses traits les signes d'un chagrin profond. Puis, lorsque fut arrivée l'heure de se mettre en marche pour accompagner le cercueil, un simple cercueil de planches noircies au pinceau, sans drap mortuaire, la vieille mendiante se plaça à côté du rémouleur et suivit le corps machinalement. Pendant le parcours, et tant qu'on fut dans le quartier habité par la famille Frochard, quelques individus se tinrent sur le pas des portes pour voir passer le misérable convoi. Plusieurs mendiants, qui connaissaient plus particulièrement la Frochard, eurent quelques velléités d'accompagner la vieille. Mais ils s'arrêtaient au bout de la rue, si bien que lorsque le convoi eut débouché dans la rue Mouffetard, il ne restait plus derrière le cercueil que la Frochard et Pierre. Les passants se découvraient devant les dépouilles de celui qui n'avait été durant sa vie qu'une cynique misérable, absolument comme s'il se fût agi de rendre un dernier hommage à un honnête homme trépassé. D'aucuns même s'apitoyaient sur ces pauvres gens qui n'avaient pas eu l'argent nécessaire pour faire un enterrement plus convenable à l'un des leurs. Il y avait maintenant beaucoup de monde dans la rue. On courait dans la direction de la Seine comme pour assister à quelque spectacle annoncé et attendu. Et tout ce monde longeait le convoi funèbre, le dépassait et allait se tasser à l'entrée de la rue donnant sur le quai. Les propos allaient leur train dans les groupes, fort animés et d'où partaient des éclats de rire. Le convoi arriva à son tour. Les porteurs criaient pour se faire livrer passage. La marche devenait de plus en plus difficile et lente. Il arriva même un moment où le convoi, serré entre deux haies humaines, dut faire halte. La Frochard était toujours comme abrutie et ne s'occupait pas de ce qui se passait autour d'elle. Mais Pierre, étonné de cette agglomération de monde sur un même point, cherchait à en deviner la cause. Tout à coup, des exemples parurent pour faire une trouée dans la foule afin que le convoi funèbre pût continuer sa route vers le cimetière et les porteurs purent se remettre en marche. Après avoir ainsi parcouru une centaine de pas, le convoi s'arrêta de nouveau. Il y avait là un amas de monde entourant deux charrettes, lesquelles étaient escortées par des soldats, tandis que des agents avaient pris place sur le devant à côté des cochers. Et dans chacun de ces deux véhicules, couverts d'une simple tente, étaient entassées une douzaine de femmes, jeunes pour la plupart, et que les badauds interpellaient de la façon la plus scandaleuse dans ce vocabulaire poissard des faubouriens de Paris. Et du haut des charrettes, les femmes ainsi injuriées, sifflées, bafouées, ripostaient avec le plus éhonté cynisme, faisant parade de leur beauté de filles de joie et affichant des gestes impudiques. Toutes étaient enchaînées par le milieu du corps, ce qui ne les empêchait pas de se pousser et de se presser pour arriver au bord des voitures, assiégées par la populace hurlante, comme si elles eussent été sur des tréteaux, et pouvoir prendre leur part des vociférations qui s'échangeaient avec les curieux. Et les propos partaient de partout, comme des fusées, se croisant à la grande hilarité des cochers et des soldats, habitués du reste à ce genre de spectacle. Pour peu, ils eussent applaudi aux lacis et fait chorus s'ils n'avaient été retenus par la discipline qui leur était imposée. L'engueulement continuait de part et d'autre. Le tumulte grossissait au fur et à mesure que les charrettes avançaient. Tout à coup, les cochers tirèrent sur les brides et les chevaux arrêtés brusquement se cabrèrent en ruant. Le chef des soldats avait donné cet ordre pour laisser passer un convoi funèbre. Alors, les cris et les lacis cessèrent comme par enchantement. Cette foule, naguère encore si bruyante, devint subitement silencieuse. Dans les véhicules arrêtés, les filles enchaînées se pressèrent les unes contre les autres. Et tout bas, elles disaient « C'est quelque malheureux qui est allé crever à l'hôpital, et qu'on va enfouir dans la fosse commune. Il n'y a personne pour suivre le corps. Si fait, regarde cette vieille. C'est la mère, bien sûr. Et ce boiteux qui trébuche à chaque pas, c'est probablement le frère. » Parmi toutes ces misérables, une jeune femme avait seule gardé le silence. Les yeux baissés, elle s'était tenue assise au fond de la voiture pendant tout le temps que ses compagnes ripostaient aux injures et aux plaisanteries de la foule. mais en entendant dire qu'un convoi de pauvres allait passer, elle s'était levée, et sa figure, attristée, contrastait avec les visages effrontés de ses compagnes d'infamie. Au moment où le convoi arrivait en face de la voiture sur laquelle elle se trouvait, ses yeux levés au ciel se baissèrent sur le cercueil. Elle crut reconnaître la vieille femme qui suivait le corps d'un air hébété. D'un brusque mouvement, elle se cramponna au bord du chariot et avança la tête pour s'assurer qu'elle ne se trompait pas. Mais aussitôt, elle aperçut le rémouleur. Alors, un soupçon lui vint qui la remua jusqu'au fond des entrailles. Oubliant l'endroit où elle se trouvait et ne prenant pas garde qu'on allait l'entendre, la malheureuse poussa une exclamation qui alla éveiller l'attention du rémouleur. Le pauvre affligé leva les yeux sur la charrette qui se trouvait à deux pas de lui. Il reconnut Marianne. Mais déjà celle-ci tendait les bras vers lui en lui criant « Pierre! Pierre! Qui donc est là ?» Ses yeux interrogeaient, sa main montrait le corbillard. À la pâleur de son visage, le rémouleur comprit qu'elle devinait. Et montrant le cercueil d'une voix déchirante, il prononça ce mot. « Jacques !» À ce nom, un tressaillement parcourut tout le corps de Marianne. « Jacques » dit-elle d'une voix sourde. « Jacques !» Et longtemps, bien longtemps, elle suivit du regard le lugubre convoi. Celui dont la dépouille s'en allait là-bas avait été l'unique auteur de toutes ses souffrances à elle, de toutes les fautes qu'elle avait commises, de toutes les larmes qu'elle avait versées. Mais c'était le seul homme qu'elle eût jamais aimé, le seul. Et lorsque le cercueil eut tout à fait disparu, une larme s'échappa des yeux de la pauvre repentie, une prière s'échappa de ses lèvres. Cette larme fut-elle comptée à ce misérable? Cette prière fut-elle entendue là-haut? Après le silence observé au moment où passait le cercueil, le tapage avait recommencé. Les charrettes s'étaient remises à rouler. D'une part, les cochers enlevaient les chevaux, en faisant claquer les fouets et criaient à la foule « Gare! Gare !» D'autre part, les curieux s'accrochaient aux roues, se hissaient sur les essieux, montaient derrière les véhicules et apostrophaient les captives. Dans la mêlée qui suivit le moment où les voitures s'ébranlèrent, il y eut une poussée formidable, et le flux de cette marée humaine livra le passage libre aux chevaux qui partirent au trot. Alors commença la poursuite, jusqu'à ce qu'épuisée, égosillée, la foule s'égrena de distance en distance. Mais plus loin, à chaque rue populeuse que traversait le convoi des déportés, la même conduite recommençait, avec les mêmes vociférations des passants, les mêmes gestes impudiques, les mêmes propos cyniques des voleuses et des prostituées. Il semblait que les soldats chargés de conduire ces malheureuses jusqu'au port d'embarquement prissent un certain plaisir à toute cette conduite acharnée. Ils riaient comme pour exciter cette lie des badauds à se montrer plus cruels, plus enragés. Et du haut de leur balcon, les gentilshommes ne dédaignaient pas d'assister à ce spectacle, comme ils eussent fait s'il se fût agi d'une promenade de masques en temps de carnaval. Il s'en allait de fort peu qu'ils n'applaudissent aux mille singeries des prostituées qui tenaient tête à la foule qui les insultait, leur renvoyant réplique pour réplique avec tout le sang-gêne de condamnés qui n'ont plus rien à redouter de la police. Et cela dura pendant tout le temps que mirent les charrettes à parcourir la distance qui sépare le petit Châtelet de la porte Saint-Honoré. Là, il y eut une accalmie. La population de ce faubourg de Paris, ayant l'habitude de voir passer de semblables convois depuis qu'on déportait les condamnés en Amérique, ne faisait plus guère attention à la sortie des chariots. Quelques bonnes âmes ne pouvaient même s'empêcher de plaindre celles qu'elles appelaient ces pauvres filles et qui ne devaient plus jamais revoir le beau pays de France. Aussitôt la porte franchie, les chevaux se mirent au pas, les cochers leur laissant la bride sur le cou. Alors, toutes ces énergumènes tombèrent dans l'abattement qui suit les grandes excitations et les grandes colères. Elles cherchèrent à se caser tant bien que mal, les unes sur les banquettes, les autres au fond de la voiture, pour se reposer des fatigues déjà éprouvées par le cahotement sur les pavés des rues. Quelques-unes, parmi les plus jeunes principalement, s'informaient du temps que l'on mettrait à atteindre le Havre de Grâce. Certaines autres, plus rouées ou mieux renseignées sur la tradition du voyage des déportés au port d'embarquement, devenaient de plus en plus provocantes vis-à-vis des archers et des exemples, en vue de douceur à obtenir en échange de leur complaisance. En effet, plus la nuit approchait, plus les soldats, qui s'étaient fréquemment arrêtés dans les auberges, devenaient familiers et entreprenants. Pendant ce prologue de la scène d'orgie qui se préparait sous ses yeux, Marianne s'était isolée. Seule, elle avait refusé de boire la piquette que les aubergistes apportaient dans de grands pots de grès et dont chaque prisonnière buvait sa part, à tour de rôle, dans le même gobelet d'étain. Ses compagnes s'étaient moquées d'elle. « Ah, si tu engendres déjà la mélancolie, » disait celle qui est arrivée à la même chaîne qu'elle, « je te plains, ma petite, car tu n'en auras pas fini de sitôt avec le chagrin. »
« Je n'ai pas de chagrin, » répondit Marianne. Puis tout à coup, ayant regardé autour d'elle d'un air effaré,
« Quoi ? Nous passons à Mantes ? » s'écria-t-elle avec un tremblement dans la voix.
« Bien sûr, il n'y a pas d'autre route que celle-ci. Ça te gêne, ma petite, qu'on s'arrête quelque part ?
Moi pas, et je descendrai pour me dégourdir les jambes.
Faudra que tu te promènes avec moi, que tu en aies l'envie ou non, puisque nous sommes enchaînés l'une à l'autre.
« On s'arrête donc à Mantes ?» s'informa Marianne avec anxiété.
« Pas tout à fait, mais tout près, dans les environs, à l'auberge du chat qui plotte. Oh, je connais bien l'endroit. J'y ai un peu volé. »
Marianne eut un long tressaillement. Cette auberge, elle se la rappelait bien. Elle se souvenait du chat qui se balançait et semblait miauler lorsque le vent agitait la plaque de tôle sur laquelle il était peint et faisait grincer les gonds. Elle se souvenait aussi d'une vieille tante qui l'avait élevée dans ce pays de Mantes-la-Jolie. Elle s'en souvenait bien qu'elle eût quitté le pays tout enfant. La maisonnette de la tante Vautier, la sœur de son père, était tout près de l'auberge. Elle avait joué longtemps avec la nièce de l'aubergiste, une petite fillette comme elle, qui avait bien pleuré lorsque son amie Marianne était partie pour aller faire son apprentissage à Paris. Pendant quelques années, elle avait écrit à la tante Vautier. Puis Jacques avait tenu dans sa vie la place que l'on sait et lui avait fait oublier le monde entier. Et depuis, elle n'aurait plus osé écrire à celle qui l'avait élevée et qui l'avait connue sage et honnête. Elle allait passer dans ce pays, devant cette auberge, tout près de la maisonnette qui se cachait derrière le rideau de peupliers qui bordait la route. Oh, comme son cœur battait à cette idée.
« Qu'est-ce que t'as donc à trembler comme ça ?» demanda la voleuse. « Si t'as la fièvre, je vais dire au sergent de me donner une autre que toi pour la chaîne. Je veux pas d'une malade pour compagne. Ça se gagne. »
« Ne craignez rien, je ne souffre pas. »
« Alors tant mieux. »
Puis la conversation fut interrompue par l'arrivée du sergent qui dit aux filles.
« Maintenant, vous autres, un peu de silence, s'il vous plaît. Il y a des braves gens qui dorment dans toutes les bicoques de par ici. Faudrait voir à respecter ce sommeil-là. Ainsi, c'est entendu, n'est-ce pas? Les chants sont défendus. »
Le silence se rétablit et l'on n'entendit plus que le roulement sourd des charrettes. Au bout d'une heure.
« Hola, maître Jean-Pierre !» cria le sergent au cocher. « Nous pouvons bien prendre un petit temps de trop jusqu'au réverbère qui est là-bas. C'est Mantes, mon sergent.
Précisément, et nous avons besoin de causer avec le cidre du père François.
Celui du chat qui plotte? Connu, c'est du fameux et raide comme la justice. »
Marianne avait saisi la phrase à la volée. Son sang se glaça dans ses veines, mais elle ne bougea pas pour ne point réveiller sa compagne qui s'était endormie. La malheureuse avait espéré que le voyage s'effectuerait pour elle sans incident douloureux. Et voilà que le hasard venait troubler sa résignation, au moment où elle s'y attendait le moins. Les charrettes avançaient grand train.
« On voit bien que vous avez soif, maître Jean-Pierre !» ricana un des archers qui trottait à côté du cocher. « Vous n'économisez pas les coups de fouet à ces carcans !»«
Des feignants, quoi ! Huléros ! Vous ne sentez donc pas la botte de foin qui vous attend là-bas ?» Et le cocher Jean-Pierre enveloppa son attelage d'un vigoureux coup de fouet. Moins d'un quart d'heure plus tard, le cahotement sur le pavé annonçait que l'on entrait à Mantes. On traversa la ville, toujours de la même allure accélérée, pour gagner l'autre côté du faubourg.
« Encore un coup de fouet, Jean-Pierre !» commanda le sergent. « Et nous allons arriver à l'auberge. Je vois déjà l'enseigne et la lanterne.
Hu là, hu !» cria le cocher. Les chevaux fournirent encore une cinquantaine de pas et vinrent s'arrêter devant la porte de l'auberge du chat qui pelote.
« Halte !» fit le sergent. Puis s'adressant aux filles, « Que celles qui veulent se dégourdir un peu les jambes descendent. Que celles qui veulent se rincer le gosier lèvent la patte. Que celles qui n'ont besoin de rien restent dans le carrosse. C'est entendu, n'est-ce pas ?»
Aussitôt, toutes les mains se levèrent et les prisonnières se précipitèrent en riant en bas des chariots. Seule Marianne n'avait pas bougé.
« Eh bien, la petite !» s'écria sa compagne qui s'était réveillée en sursaut. « Debout ! Je veux descendre, moi !»«
Oh, je vous en prie !» supplia Marianne. « Restons ici. Ne pouvez-vous demander qu'on vous apporte à boire, sans que vous quittiez la voiture ?»«
En voilà une idée ! Faut pas y compter, mademoiselle ! J'ai des fourmis dans les jambes ! Allons, en l'air, s'il vous plaît !»«
De grâce !» essaya Marianne en joignant les mains. « Je veux descendre, que je vous dis !» Et la prisonnière élevait si fort la voix que le sergent, croyant à une querelle, accourut pour mettre le holà. Déjà, toutes les filles s'enfournaient pêle-mêle dans l'auberge en faisant un tapage d'enfer. « Qu'est-ce qu'il y a par là ?» interrogea le sergent en se présentant devant Marianne. « C'est mademoiselle !» répondit la prisonnière d'un ton furieux. « Qui ne veut pas m'accompagner et faire comme les autres !»« Pourquoi ça, la belle ?» fit le soldat en saisissant le bras de Marianne. Et sévèrement, « Il n'y a pas de caprice ici. Il n'y a qu'une volonté. C'est la mienne. Allons, vite, pied à terre, la fille. Il ne s'agit pas de faire l'entêter. Ou je cogne, mille tonnerres !» Le sergent levait le bras, Marianne se dressa sur les genoux. « Ne pouvez-vous, demanda-t-elle, détacher cette chaîne pour permettre à ma compagne de se promener seule ?»«
Plus souvent !»«
Oh, vous m'enchaînerez ici, à cette banquette. Du reste, je n'ai nulle envie de m'évader, » soupira-t-elle. « Seulement... »«
Il n'y a pas de seulement qui tienne. Il y a une consigne. Oust ! À terre, nom d'un nom ! Et plus vite que ça !»
En même temps, le sergent avait empoigné la malheureuse par la taille et la soulevait vigoureusement pour la poser à terre. Aussitôt, la prisonnière entraîna bon gré mal gré Marianne jusque dans l'auberge. Dans une pièce enfumée, prisonnières et soldats buvaient, appelant, chantant, criant. L'aubergiste ne savait plus où donner de la tête et à qui répondre. Sa femme, son fils et sa nièce ne faisaient qu'apporter des brocs de cidre dont le contenu était avalé en une seconde. Et les gobelets vidés d'un trait, le tapage recommençait plus violent. Marianne, plus morte que vive, s'était laissée conduire à une table où sa compagne de chaîne avait trouvé des places. La pauvre affligée tenait les yeux baissés tandis que l'aubergiste s'arrêtait devant elle, déposant un broc de cidre et un seul gobelet sur la table en disant « Il n'y en a plus qu'un de libre. Vous n'êtes pas dégoûtées l'une de l'autre, probablement. »«
Je ne boirai pas, » murmura Marianne.
« Oh oh !» fit l'aubergiste en riant. « Nous ne voulons donc pas faire aller le commerce au père François, ma petite ?» et dévisageant Marianne. « Nous n'avons pourtant pas l'air méchants, la belle. Voyons, voulez-vous trinquer avec le père François à la santé de sa majesté le 16e du nom ? Que Dieu protège !»
Marianne tremblait de tous ses membres. Elle balbutia.
« Je n'ai pas soif, je ne pourrai boire. Excusez-moi, monsieur, mais... »
Tout à coup, l'aubergiste poussa une exclamation qui fit frissonner la pauvre fille.
« Hein ?
Mais c'est... » bredouillait le père François en s'essuyant le front du revers de sa main, comme pour rappeler ses souvenirs.
« C'est-y vous ou c'est-y pas vous ?»
puis avec assurance.
« Mais je ne me trompe pas, j'ai pas la berlue.
C'est toi, pardienne, je te reconnais bien à cette heure. » et levant les bras au ciel.
« C'est toi ? » reprit-il en écarquillant les yeux. « Toi ? Avec ces... »
Il s'interrompit. Marianne avait pris une résolution énergique. Levant les yeux courageusement, elle soutint le regard de l'aubergiste en disant à celui-ci d'une voix qu'elle s'efforça de rendre calme.
« Vous vous trompez assurément, monsieur. Vous ne pourriez pas me reconnaître, car nous ne nous sommes jamais vus.
Ah, pour le coup, c'est trop fort. Attends, attends. » Et plantant la Marianne émue jusqu'au fond de l'âme et l'autre prisonnière stupéfiée, le père François s'élança vers la porte du cellier en appelant.
« Et là, toi non ! Monte ça, bien vite !»
La nièce de l'aubergiste, appelée avec cette insistance, parut au haut de l'escalier. Le père François la poussa vivement jusqu'à deux pas de la table où se trouvaient Marianne et sa compagne de chaîne et s'adressant à sa nièce.
« Regarde par là, toi non !» lui dit-il. « À qui qu'elle ressemble, cette grande palote-là »«
La brune ?
Non, l'autre !»«
Attends, attends !» fit la nièce de l'aubergiste en s'avançant d'un pas. « Attends que je la dévisage !» Puis, se tournant vers le père François.
« Mais c'est la Marianne » s'écria-t-elle. « Marianne Vautier !»«
Marianne Vautier !» dit en riant le sergent. « Vous n'y êtes pas du tout !»«
Comment ?
Ce n'est pas le nom que porte ma liste !»«
Le sergent a raison !» dit Marianne, qui comprit aussitôt que si la substitution opérée par elle au profit d'Henriette était découverte avant qu'elle-même ne fût embarquée, Henriette pourrait être recherchée, arrêtée, puis exilée enfin, comme elle avait dû l'être. Et lorsque Toinon fit un mouvement pour s'élancer vers la prisonnière, celle-ci l'arrêta d'un regard froid en disant « Qui appelez-vous Marianne Vautier ? Serait-ce moi ?» La malheureuse s'efforça de sourire, mais les larmes lui montaient aux yeux. Elle saisit le gobelet de cidre qu'elle porta vivement à ses lèvres. Le père François avait disparu laissant sa nièce tout interloquée de ce qu'elle voyait et entendait. Toinon ne savait plus s'il fallait croire à une ressemblance miraculeuse. Elle ne quittait plus du regard son ancienne amie, cherchant à bien se rappeler. C'étaient les mêmes cheveux châtain clair, les mêmes traits, plus accusés toutefois depuis que la fillette était devenue femme. Il n'y avait pas de doute possible. Tout à coup, le père François reparut, soutenant par-dessous le bras une vieille femme qu'il fit avancer devant lui pour la mettre en face de la prisonnière qu'il croyait avoir reconnue. Marianne étouffa le cri prêt à lui échapper. Le sergent était toujours là, et celle qui s'avançait pour regarder Marianne, c'était la tante Vautier, la femme qui lui avait tenu lieu de mère. Malgré qu'elle eût bien vieilli, la pauvre tante Vautier, que son dos se fût voûté avant l'âge, comme si le chagrin l'eût accablée de son poids, malgré qu'elle n'eût encore prononcé aucune parole, Marianne l'avait bien reconnue. Et elle était forcée de jouer la comédie de l'étonnement, de persévérer dans le mensonge qu'elle devait s'imposer. C'était un horrible supplice pour cette malheureuse qui eût voulu courir au-devant de la bonne femme, lui ouvrir ses bras, la presser sur son cœur, la couvrir de baisers et de larmes. Pendant cette seconde, elle se sentit mourir et demanda à la Providence de lui venir en aide, de la laisser expirer sur le champ, afin de ne pas assister à la douleur de cette pauvre femme qui allait succomber de désespoir et de honte. L'inexorable fatalité la poursuivait. La tante Vautier, en la reconnaissant, chancela comme si elle eût été prise de vertige. Les deux bras levés vers le ciel, elle suffoquait, ne pouvant articuler une parole. Mais ses regards effarés allaient alternativement du visage pâle de Marianne à celui du père François. Enfin, la voix lui revint saccadée pour s'écrier « Toi, toi, Marianne, oh mon Dieu, mon Dieu !» Puis elle marcha, le sein haletant, les bras ouverts en disant « Oh malheureux enfant, je ne peux pourtant pas te maudire, moi qui t'ai élevée comme si tu avais été ma fille. » Elle était tout près de Marianne, elle lui prit la tête pour l'attirer à elle, sous ses lèvres tremblantes. Mais Marianne refusa l'étreinte. La malheureuse se condamna à ce martyre de se dérober aux embrassades de cette sainte femme qui avait pris soin de son enfance, dont les pauvres yeux s'étaient ternis à pleurer peut-être de ce qu'elle avait cru morte, loin d'elle, l'enfant qu'elle se reprochait d'avoir laissé partir. Elle demeura froide, simulant la surprise, et pour sauver à la fois Henriette et cette pauvre vieille tante, elle arracha de sa gorge contractée ce mensonge pieux. « Vous vous trompez, ma bonne dame. Je ne suis pas celle que vous croyez. » Elle cessa de parler, les sanglots contenus l'étouffaient. Elle détourna les yeux pour ne pas rencontrer le regard effaré de tante Vautier. Mais celle-ci ne se tint pas pour convaincue. Son cœur la poussait à persévérer dans son élan. « Tu ne me diras pas que je suis folle, Marianne. Ah, je sais bien que c'est la honte qui te consume et que tu voudrais me cacher la vérité. Mais tu ne peux pas tromper mon cœur, qui me dit que c'est toi, toi, mon enfant, ma fille. Ah, viens, malheureuse, viens. Quelque coupable que tu sois, je ne peux pas. Je ne peux pas te laisser partir sans te serrer dans mes bras, pour la dernière fois, avant de mourir. » Marianne supporta l'épreuve sans fléchir. Dieu lui envoya la force de se faire un masque calme, impassible. Et sa voix ne trembla pas lorsqu'elle répondit « Dieu vous garde, madame, de voir jamais votre nièce Marianne tomber au degré où je suis. Vous êtes abusée par une ressemblance. Je me nomme Henriette Gérard. » Et comme la pauvre vieille allait parler, elle l'interrompit par ces mots. « Vous pouvez vous assurer, madame, que je ne vous ai dit que l'exacte vérité. « Sergent, ajouta-t-elle, veuillez dire à madame quel est mon nom. » Le sergent haussa les épaules en ricanant. « Mais je l'ai déjà dit. Eh, tenez, j'ai là ma liste. » Et pendant qu'il cherchait le papier, la tante Vautier s'était rapprochée de Marianne et doucement elle lui soufflait à l'oreille. « Je comprends que tu aies honte. Malheureuse, qu'as-tu fait pour tomber dans la fange ainsi? Oh, je sais bien que c'est la vie de Paris qui t'a perdue. C'est pourquoi tu n'as plus écrit depuis si longtemps à ta pauvre vieille tante? Non, Marianne, tu ne peux pas me tromper. C'est toi, c'est bien toi. » Mais la voix du sergent l'interrompit. Le militaire avait tiré de sa giberne la liste des filles qu'il était chargé de conduire au port d'embarquement, et lisant à haute voix. « Henriette Gérard, c'est bien ça, je ne m'étais pas trompée. Henriette Gérard, fille de joie, arrêtée sur l'ordre de monsieur le lieutenant de police. » « Fille de joie ? s'exclamèrent en même temps l'aubergiste et sa nièce. La tante Vautier demeurait immobile, les yeux toujours fixés sur le visage de Marianne. Elle poussa un soupir et allait se retirer. En ce moment, le sergent commanda de se remettre en route. Tout le monde se leva. Marianne suivit les autres condamnés. Mais au moment où elle passait devant sa tante, « Madame, dit-elle à la vieille femme, puisque je ressemble à celle que vous avez élevée et qui est honnête, elle, permettez-moi de vous embrasser, madame, si je ne vous fais pas horreur. » Et courbant le front, elle ajouta d'une voix suppliante, « Cela me portera bonheur, madame, car je vous le jure, je me suis bien repentie. J'ai bien pleuré, bien demandé pardon au Tout-Puissant. » Puis sans attendre que tante Vautier ait pu répondre, Marianne appuya ses lèvres sur les joues ridées de la vieille femme et deux larmes roulèrent de ses yeux. Sa compagne de chaîne lui cria « Eh bien, la mijaurée, c'est-y pour Astor ou pour plus tard ?» Marianne embrassa une fois encore sa vieille tante Vautier et dès qu'elle fut à la porte, elle adressa un dernier regard à la pauvre femme qu'elle ne devait plus revoir. Au moment où elle se disposait à remonter dans la charrette, Marianne se trouva tout à coup en face de son ancienne amie d'enfance. Toinon s'approcha tristement d'elle. « Adieu, mademoiselle Henriette, » dit-elle à haute voix, et tout bas, elle murmura à son oreille. « Adieu, ma pauvre Marianne. Oh, mon cœur t'a bien reconnue, va. Mais j'ai respecté ton secret par pitié pour la vieille bonne femme. « Mais non, je vous assure, » balbutia Marianne. « Quand mon cœur et mes yeux se seraient trompés, » dit Toinon en saisissant la main de Marianne, « N'as-tu pas encore à ton doigt l'une des petites bagues de plomb que nous avons échangées jadis en nous quittant? Tu as gardé la mienne comme j'ai conservé la tienne, comme je conserverai aussi ton souvenir. Oh, toujours! Et toi, Marianne? Toujours !» Et les deux jeunes filles tombèrent en pleurant dans les bras l'une de l'autre. « En route !» cria le sergent qui vint les séparer. « Toujours !» répéta Toinon. « Toujours !» dit encore Marianne. «